radiocultura.eus.
Avant même que les premières étapes du Tour de France 2023 traversent le Pays Basque, Francis Lafargue et Shimon Larré présentaient le livre « Histoire du cyclisme au Pays Basque Nord ». Cet ouvrage, riche en photos dont certaines inédites, est à la fois un hommage à des figures du cyclisme du Pays Basque Nord et aux courses et critériums qui ont rythmé la vie sportive depuis plus d'un siècle. Rappelons que Francis Lafargue, traducteur des équipes Reynolds et Banesto ainsi que manager de Miguel Indurain, est décédé peu de temps après la publication de ses livres. Dans cette deuxième partie, Shimon Larré, journaliste à Média Basque et co-auteur de l'histoire du cyclisme au Pays Basque Nord, nous raconte qui était Francis Lafargue et son lien avec le cyclisme basque.
Ouais, c'est un livre qui fait dans les 130 pages. Et c'est vrai que la première fois qu'on l'a eu dans les mains, c'était un petit moment d'émotion, hein, on va pas se cacher, parce que c'est le fruit du travail de plusieurs mois quand même. Et les échos qu'on a eus étaient plutôt bons aussi, donc j'espère qu'on a réussi à partager ça avec le plus grand nombre. Ouais. Bonjour, Hachim Moulard, donc je suis journaliste et je travaille avec Média Basque. Oui, voilà, j'ai écrit ce livre avec Francis Lafargue, malheureusement qui nous a quittés vite après, hein, deux ou trois mois après que le livre soit sorti. Il nous a quittés au mois de septembre et ça a été très soudain. Il a laissé un trou immense autour de lui, dans la famille du vélo, parce qu'il était très connu dans le monde du cyclisme ici au Pays Basque, pas qu'en Iparralde, dans tout le Pays Basque, hein, et même au-delà, bien au-delà. Et ça a été, voilà, évidemment, après avoir passé tant de temps avec lui à écrire ce livre et avoir partagé des grands moments, voilà, c'était évidemment rude et puis évidemment personne ne s'attendait à ce que Francis parte aussi vite, ouais. Alors Francis a couru quand il était jeune, et Francis avait grandi à Biarritz, il a couru jusqu'en cadet. Et après, il a joué au rugby, donc il a joué pas mal au rugby. Mais il a toujours suivi le vélo, il a toujours aimé suivre les courses, voilà. Et notamment, il allait beaucoup, c'était même un des rares hein, de sa génération, il allait en Aigualdé pas mal voir les courses et tout ça. Et c'est comme ça qu'en fait, il a remis un pied dans le cyclisme parce que, bon, il faut savoir qu'entre-temps, il avait commencé à travailler à la Sécu à Bayonne, hein, donc voilà, il avait son job là-bas. Mais un jour, il fait la rencontre de José Miguel Echavarri, qu'il connaissait déjà, bon, plus ou moins de vue, mais... C'est une rencontre qui va bouleverser sa vie parce que après une étape du Tour du Pays Basque en haut du col d'Ibardine, José Miguel Echavarri lui dit « Il faudrait que tu viennes nous voir ce soir à l'hôtel, on est en bas là à Béra et j'ai quelque chose à te demander, voilà. » José Miguel Echavarri, il venait de monter l'équipe Reynolds, la fameuse équipe Reynolds, qui allait pour la première fois faire le Tour de France. Et il n'avait personne dans l'équipe qui parlait français, donc c'était un peu embêtant. Et il cherchait voilà, au moins quelqu'un qui puisse, un, parler français, mais aussi s'occuper de la logistique et tout ça, et leur donner un coup de main dans l'encadrement. Quoi. Alors il lui propose ça, Francis était un peu attrapé parce que, évidemment, il avait son boulot à Bayonne, et comment je vais faire et, bon, il n'a pas mis très longtemps à prendre une décision, hein. Il en a parlé un peu avec sa femme, et puis finalement, il a accepté rapidement. Et puis ça s'est passé comme ça, il a pris des congés pour aller faire ce fameux Tour de France 83. Il faut savoir qu'à l'époque, en 83, l'équipe Reynolds marche très bien sur le Tour. Hein. Il y avait Pedro Delgado qui était très jeune mais qui avait marqué les esprits. Angel Arroyo qui fait deuxième du Tour cette année-là. Bon. Et puis petit à petit, bon, au début, il a commencé comme ça. Donc, il a gardé pendant les premières années, il gardait son boulot en cas à la Sécu, mais il prenait des congés et puis il a réduit son temps de travail pour rentrer un peu dans le staff de l'équipe Banesto. Et puis il a été embauché pour de bon. Voilà, quand Banesto est arrivé à remplacer Reynolds, là il est embauché et il faisait partie du staff de Banesto. Et à côté de ça, il a été aussi manager personnel de Miguel Indurain. Ça c'était aussi quelque chose qu'il faisait à côté, d'où les liens très forts qu'il avait et avec Miguel Indurain et avant avec Pedro Delgado aussi. Ouais. Ouais, je garde de très bons souvenirs parce que voilà, quand j'ai eu la chance de le connaître, Francis, et puis d'abord dans le travail, puis après bon, une amitié est née et on partageait bon la passion du vélo, mais l'amour de l'histoire du vélo aussi. Voilà, c'est ça qui nous avait rapprochés, d'où l'idée du livre. Et voilà, on a passé de très très bons moments. C'était toujours des échanges très riches avec lui. Et puis c'était vraiment, mais bon, tout le monde le dit, mais ça fait un peu... Mais c'est la vérité, c'était vraiment une bonne personne. Voilà, donc je garde vraiment d'excellents souvenirs. Et puis c'est ça qu'il faut garder en mémoire, évidemment. Même si, voilà, il a laissé, comme je l'ai dit, un trou immense autour de lui, ouais. Alors le livre s'appelle « Une histoire du cyclisme en Pays Basque Nord » aux éditions Elkar. C'est la collection à la découverte 2. Et on a organisé ce livre en deux grandes parties. On a une première partie qui est consacrée aux figures du cyclisme, ici en Pays Basque Nord. Alors c'est pas seulement les coureurs, il y a aussi autour des coureurs, il y a d'autres personnages. Ça peut être des entraîneurs ou des organisateurs de courses de l'époque qui ont marqué leur époque. Voilà, il y a toute une galerie de portraits qui suivent un ordre chronologique, évidemment. Et après, il y a une deuxième partie qui est consacrée aux courses. On fait un panorama de toutes les courses qu'il y a eu ici, des courses professionnelles ou amateurs. Les courses professionnelles, on évoque évidemment le Tour de France qui est passé à de nombreuses reprises ici, mais il y a eu le Tour du Pays Basque qui est passé ici, le Tour d'Espagne, on l'a oublié aujourd'hui, mais qui est passé pas mal de fois. Puis d'autres courses professionnelles qui ont disparu. Et puis tout le panorama des courses amateurs, qui est là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de courses qui n'existent plus malheureusement. Et puis en fin de livre, on a aussi un petit annexe qui est consacré aux clubs. Voilà, aujourd'hui, il y a moins de clubs, même si ça repart, il y a quand même des nouveaux clubs qui sont nés ces dernières années, qui repartent un peu. Et on évoque tous ces clubs, donc pas mal, on n'existe plus aussi, ouais. Les photos, c'est ce qu'on voulait, hein. On voulait quelque chose qui soit très visuel, parce qu'on avait justement une base d'archives qui était incroyable. Beaucoup des photos qui sont dans le livre n'avaient pas été publiées. Francis a fait un travail de récolte auprès de certaines familles et tout ça, du milieu cycliste. Et il a eu beaucoup de certaines pépites. Hein. Il y a vraiment des photos, il y a des trésors, je trouve. Donc c'est ça qu'on voulait, vraiment quelque chose. Et moi, il y a des photos actuelles, on va dire des coureurs, voilà, des photos modernes. Il y a des photos anciennes. Et je pense notamment à une photo, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'est une photo et qui illustre bien un peu ce livre. C'est une photo de 1924. C'est une photo qui se passe à Cambo. C'est une course sauvage, ouverte aux non-licenciés. Et on voit une poignée d'hommes, là, de jeunes hommes, qui sont alors avec des tenues de briques et de broc. Ils ont des vélos qui n'ont rien à voir avec les vélos d'aujourd'hui. Et c'est les vélos de tous les jours, mais ils sont là pour une course. Et ça marque aussi ben voilà, cet engouement qu'il y avait d'aller le dimanche faire la course de vélo, même si on avait un vieux vélo un peu pourri et qu'on n'avait pas de maillot et on partait avec les vieilles chaussures et puis et le béret sur la tête. Voilà. Ça serait difficile de les marquer, d'en sortir une comme ça, peut-être une anecdote. C'est vrai qu'à une époque, par exemple, je pense, on a des portraits comme Alberto Lats, Paul May, c'est des coureurs des années 40, 50 et tout ça. Et c'est vrai, quand ils racontent leur vie, il y a des histoires un peu croustillantes parce que c'est une époque qui révolue, évidemment. Et c'était, aujourd'hui, le cyclisme, c'est tellement professionnalisé et devenu peut-être un peu aseptisé aussi. Il y a moins d'imprévus. Alors qu'à l'époque, on partait à l'aventure sur des courses. Et on partait avec ses boyaux de rechange autour des épaules et on réparait soi-même son vélo. Donc c'était quand même, voilà, c'était une aventure. C'était beaucoup plus une aventure que maintenant. Donc il y a quelques anecdotes comme ça aussi qui marquent cette époque-là, ouais. Ouais, c'est un livre qui fait dans les 130 pages. On était très contents du résultat parce que cette collection là de chez Elkar, donc qui s'appelle à la découverte 2, se prêtait tout à fait au format qu'on voulait, c'est-à-dire avec beaucoup de photos. À chaque page, il y a une, deux photos ou illustrations. Et c'est vrai que la première fois qu'on l'a eu dans les mains, c'est un petit moment d'émotion, hein, on va pas se cacher, parce que c'est le fruit du travail de plusieurs mois quand même. Et les échos qu'on a eus étaient plutôt bons aussi, donc j'espère qu'on a réussi à partager ça avec le plus grand nombre. Ouais. Alors, je le vois sans doute un peu mieux maintenant qu'il y a peut-être une dizaine d'années. Alors, il y a deux phénomènes quand même distincts. C'est que, bon, on l'a dit, il y a beaucoup de courses qui ont disparu, de clubs qui ont disparu. Par contre, au niveau de la pratique du vélo, on le voit, il suffit de regarder au bord des routes, il y a énormément de cyclisme. Alors là, on ne parle pas de compétition, on parle de cyclotourisme ou de cyclisme pour le plaisir, voilà. Bon, tous les gens qui pratiquent du vélo comme ça ne feront pas ensuite de la compétition. Mais si à la base, on a déjà une grande pratique de vélo, on a plus de chances après d'avoir certains qui puissent aller vers la compétition. Et pour venir justement à la compétition, on s'est retrouvé à un moment donné, on avait quasiment plus que deux clubs, hein, l'Aviron Bayonnais et Mollion, qui tenaient la baraque, on va dire. Et ces dernières années-là, on a vu apparaître, à CMP par exemple, le Tour de France s'est passé en 2018, Et dans le sillage de ce passage, il y a un club qui renaît. À Saint-Jean-de-Luz, il y a un club qui s'est monté aussi, qui fait de la compétition, Bicicleta Taldea. Il y a le team Iparralde qui fait un très beau travail au niveau des juniors, qui rassemble les meilleurs juniors locaux. Ça fait que tout ça, mis bout à bout, bon, c'est des petits pas, mais on sent qu'il y a même un frémissement, quoi. Après des années et des années où on semblait que le cyclisme était en train de se casser la gueule, ça donne une note d'espoir. Ça se structure un peu davantage et voilà, il n'y a pas autant de courses qu'avant. Il faudrait peut-être un peu plus de courses, mais ça va venir certainement dans le sillage de ce nouveau club aussi. On a vu une course qui est réapparue à Saint-Pé par exemple cette année. Ça donne une touche d'espoir, voilà. Ça ne sera jamais comme avant, ça c'est sûr. Et ben, on ne peut pas revenir sur l'histoire non plus. Mais le cyclisme amateur, en tout cas chez les jeunes, n'est pas mort et je pense qu'il va pas mourir non plus, on y parle. Il y a certainement un côté commercial très très poussé même. C'est vrai que l'accès au cyclisme, on va pas se cacher, hein, c'est pas évident, c'est des budgets. Ça peut refroidir pour les parents d'un ado qui dit « moi j'ai envie de faire du vélo ». Bon, après voilà, quand on démarre le vélo, franchement, il y a moyen encore de faire du vélo allez, en restant raisonnable. Il faut pas partir de suite, se laisser enflammer par telle ou telle marque et tel ou tel produit, je veux dire tel ou tel vélo. Il faut essayer de rester raisonnable. Et puis après, quand on commence à marcher un peu, bon, il y a moyen avec le club ou comme ça d'essayer de trouver du matériel peut-être. Mais c'est vrai que ça pose un problème. Il y a ensuite, on voit des vélos qui sont à des prix exorbitants. Bon, certains peuvent se permettre parce qu'ils ont voilà, les moyens, tout ça. Mais pour un jeune, non, c'est pas évident du tout. Voilà, il faudrait quand même que ça reste, les prix restent abordables. Ça serait l'idéal, ouais. Un lieu où il passe pas souvent et où le Tour de France n'est passé que deux fois, et là le Tour d'Espagne est passé pour la première fois, c'était le port de la Roe, un lieu magnifique, juste au-dessus du village de la Roe. On voit une vue dégagée sur 5 ou 6 lacets, donc on voit les coureurs arriver de loin. L'avantage du Tour d'Espagne aussi par rapport au Tour de France, c'est qu'il y a moins de monde au bord de la route. C'est un public qui est différent, c'est un public de plus d'avantage de connaisseurs, il y a moins la foule et les débordements qu'on voit autour. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour voir le tour. Et puis après, au sommet du port de la Roe, on l'a vu, il y avait une grosse affluence là par contre, avec beaucoup de gens néerlandais, mais un public voilà, hyper respectueux, de passionnés. C'est ça aussi qui fait le charme de voir des courses ici hein, en Pays Basque. Ouais.
Radio Cultura. Puntueus.